Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à votre espace Plaisir de lire. Le numéro de ce jour, nous allons le consacrer à un grand nom de la littérature, nous allons dire mondiale, parce qu'une plume marquante, qui nous a donc quitté le 2 avril 2024. Il s'agit en l'occurrence de l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé. Vous en saurez plus tout à l'heure avec mes deux invités en studio avec moi, mais pour l'instant, je voudrais juste vous permettre aux uns aux autres de mieux découvrir cet auteur à travers donc cette brève présentation de sa personne. Il faut noter que Maryse Condé est guadeloupéenne. Elle naquit le 11 février 1934, la benjamine d'une famille aisée de 8 enfants, d'une mère institutrice et d'un père banquier. Pendant ses études, elle éprouve le racisme, découvre sa négritude et prend conscience du colonialisme aux Antilles, mais aussi en Afrique. Puis elle publie ses premiers récits, La légende du flamboyant, En France noire et Le rêve exotique en peinture qui couvre le monde créole. En 59, Maryse Condé épouse l'acteur guinéen Mamadou Condé, avec qui elle eut 4 enfants. De là, elle se rendit en Afrique et parcourt la Guinée, le Ghana, le Sénégal, un peu toute l'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire. Elle enseigna le français au lycée de Bingerville en Côte d'Ivoire. Elle entreprendra au Ghana la rédaction de ce qui sera son premier roman, savoir R. Makonon, inspiré de son vécu en Afrique de l'Ouest et publié en 1976. En 81, elle va donc divorcer d'avec son époux Condé. Puis l'année suivante, elle épousa le Britannique Richard Philcox, traducteur de langue anglaise de la plupart de ses romans. Parlant de sa biographie, il faut noter que Maryse Condé a une biographie prolifique. Ses œuvres incluent des romans, des pièces de théâtre et des essais. Elle a également produit de la littérature jeunesse. Par son œuvre, elle lègue son savoir, ses idées ainsi que ses expériences personnelles. Vous l'aurez compris, mes auditrices et auditeurs, c'est donc une écrivaine immense, talentueuse, une œuvre prolifique que nous allons découvrir aujourd'hui dans le cadre de votre espace Plaisir de lire. Mes deux invités, donc, pour vous permettre de mieux faire connaissance avec l'auteur Maryse Condé, guadeloupéenne, décédée, je rappelle, le 2 avril 2024, sont deux enseignantes de l'Université Félix Fréboigny de Cocody. En l'occurrence, professeure Assi Diané. Elle est maître de conférence au département de lettres modernes à l'Université Félix Fréboigny de Cocody, spécialiste du roman africain et de la littérature francophone. Professeure Assi Diané, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Radio de la Paix pour donc ce plateau spécial dédié à Maryse Condé. Aux côtés du professeur Assi Diané, nous avons aussi un autre professeur, professeur Béatrice Larou Nguessan. Elle est professeure titulaire de littérature et civilisation française. Elle a été aussi l'auteur d'un écrit, un écrit scientifique sur Maryse Condé, publié en 2019, intitulé « Mets et merveilles dans l'écriture de Maryse Condé ». Professeur Béatrice Larou Nguessan, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation pour ce numéro donc spécial de Plaisir de lire. J'ai eu l'occasion en introduction de présenter de façon sommaire, ramasser Maryse Condé, son parcours, mais aussi quelques éléments de sa biographie très succincte. Alors, vous qui êtes donc des universitaires, qui connaissez l'auteur, qui avez lu certains de ses ouvrages, qui est Maryse Condé? On va commencer par professeur Assi.
Oui, donc je pense que vous avez dit l'essentiel. de qui était Maryse Condé. Donc, c'est une écrivaine, en effet, qui a été aussi journaliste, professeure d'université. Donc, c'est une écrivaine qui vraiment a été aussi touche à tout, hein, au niveau de l'écriture. Elle a commencé d'ailleurs par le théâtre, ensuite le roman, et puis des récits pour la jeunesse. Elle a évidemment produit aussi des articles scientifiques, des ouvrages importants sur la littérature caraïbe, la littérature antillaise. Voilà, donc c'est une écrivaine qui a aussi donc une œuvre très importante. Mm-hmm. Bon, dont je pense nous allons
parler
tout à l'heure, et qui a eu aussi un prix Nobel, hein, le prix Nobel alternatif en 2018.
C'est ça. Et pratiquement, c'était le premier prix Nobel alternatif, si je ne m'abuse. Hein.
Oui, tout à fait.
Exactement.
Tout à fait.
Pour consacrer sa grande œuvre, sa grande production, son œuvre littéraire. Merci, professeur Assi. Et professeur Béatrice Larou-Nguessan, un additif sur ce que professeur Diané vient de dire, Assi vient de dire.
Je pense que
l'essentiel y est.
L'essentiel y est, mais mm-hmm. je voudrais quand même ajouter quelque chose,
à Allez-y.
Savoir que on peut la définir par rapport à elle-même, comment elle se définit. Et donc, mm-hmm. elle se définit comme quelqu'un de marginalisé. Elle se définit comme quelqu'un de marginalisé. Et elle dit d'ailleurs, après l'attribution du prix
Nobel alternatif,
mm-hmm. que la France a finalement reconnu les romanciers guadeloupéens, enfin qu'elle est contente que la Guadeloupe soit récompensée. Et le disant, elle pense forcément à la place qui a été la sienne dans cette littérature antillaise et tout ça. Et ce n'est pas facile parce que... il faut savoir, pour comprendre ce discours qu'elle tient sur elle-même, pour comprendre cela, il faudrait replacer peut-être le parcours de Maryse Condé, même pas le parcours de Maryse Condé, mais la Guadeloupe au sein des Caraïbes. Mmh. Il faut dire aussi que si elle le dit, c'est parce que à côté de la Guadeloupe, il y a la Martinique, et la Martinique a produit de grands hommes littéraires. Comme Césaire, comme Glissant, comme Chamoiseau, comme Confiant. On peut même dire aussi René Maran, qui n'est certes pas martiniquais, mais qui est né en Martinique et qui a été le premier Goncourt noir en 1921. Donc il y avait cette Martinique qui avait produit beaucoup de grands hommes. Et puis il y a la Guadeloupe avec, rappelons-le, aussi un Goncourt. Elle dit que la France ne reconnaît pas la Guadeloupe, mais il y a Saint-Jean-Perse qui a reçu le prix Nobel de littérature avant elle, et c'était un Guadeloupéen.
D'accord.
Mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette dualité Saint-Jean-Perse et Maryse Condé.
Très bien. Merci à professeur Béatrice Larousse. Vous nous tendez la perche parce que nous allons en même temps plus vous parler tout à l'heure de la Martinique, d'Aimé Césaire, de François Fanon. Automatiquement, quand on cite Césaire Fanon, on voit automatiquement la négritude. Donc, voyons ensemble la première grande partie, donc, de ce temps d'échange. Je rappelle donc pour celles ou ceux qui viendraient de nous prendre en marche dans l'espace Plaisir de Lire consacré aujourd'hui à l'écrivaine autrice guadeloupéenne décédée le 2 avril 2024, savoir Maryse Condé. Alors, parlons donc de Maryse Condé, de la négritude, ce mouvement donc qui a vu éclore de grands noms au niveau de la littérature négro-africaine. Je voudrais vous citer une phrase de Maryse Condé, extraite d'une interview qu'elle a accordée le 9 décembre 2018 au journal français Le Monde. Alors, parlant de la négritude, Maryse Condé dit ceci: « La négritude de Césaire n'est qu'un beau rêve. » Alors, lorsque on a une telle phrase, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quel regard Maryse Condé portait sur la négritude, parce que dans le même temps, elle reconnaissait Césaire comme un de ses pères. Professeur Assi.
Oui, en effet, la posture en fait de Maryse Condé par rapport au mouvement de la négritude est assez particulière, singulière, comme beaucoup d'éléments de sa manière de considérer les différentes idéologies, notamment les différents courants littéraires qui ont parcouru donc les Caraïbes. Et par rapport à la négritude, justement, bon, vous parliez de Césaire, c'est vrai qu'elle reconnaît Césaire comme, bien évidemment, l'un des auteurs les plus importants du monde négro-africain de l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Mais elle avoue aussi, par exemple, dans Le cœur à rire et à pleurer, qui est un récit de type autobiographique, que la lecture de Césaire a été moins importante pour elle, à la limite, que la lecture de La rue Cazenègre, par exemple, de Joseph Sobel, mm-hmm. qui l'a beaucoup plus percutée, disons.
Hein. Une manière pour elle pour dire qu'elle n'a pas été vraiment fondamentalement influencée par ces écrivains de la négritude.
Pas fondamentalement influencée, même mm-hmm. si elle reconnaît évidemment la portée de l'œuvre de Césaire. Mais elle reconnaît aussi que Sobel, par exemple, l'a beaucoup, pas forcément influencée, mais en tout cas l'a troublée par rapport aussi hein, au type de vie qu'elle a pu avoir. Et au niveau de son rapport à la négritude, on peut dire que il y a toujours cette forme de pensée complexe hein, qu'elle a vis-à-vis de la négritude et qu'on va retrouver dans, par exemple, son premier roman, hein, le R.M. Akonon, hein, qui a été d'ailleurs souvent décrié hein, par justement les tenants de la négritude parce que il prenait des distances, il prenait une certaine distance justement par rapport au mythe, au pluriel, de la négritude.
D'accord. Alors parlons donc de cette complexité à laquelle vous faites allusion, docteur Assis. Je voudrais juste vous partager aussi un extrait d'un confrère qui disait ceci, hein, parlant donc de ce rapport de Maryse Condé à la négritude, qui disait ceci, hein, toujours en rapport avec l'un des pères fondateurs de cette négritude, Savoie-Aimé Césaire, et je cite, « La relation de Condé à Césaire oscille dans son œuvre de fiction autant que ses écrits critiques entre rébellion et fidélité, entre une critique véhémente de la négritude et un retour incessant à cette figure paternelle. » Professeur Béatrice Larou, Nguessant.
Vous savez, on essaie toujours de tuer le père. Mais comme professeur Assis l'a dit, il y a certaines distances vis-à-vis de la négritude, mais en même temps, on reconnaît quand même les aînés. Et vous avez dit, au début, avant d'interroger professeur Assis, vous avez dit qu'elle considérait la négritude césarienne comme quelque chose de rêvé. Mmh. Vous avez employé le mot rêve.
Elle parle d'un beau rêve. Un beau rêve.
Ben oui. Et je pense que si elle déclare cela, c'est parce que elle a vécu en Afrique. Et elle a vécu donc autrement la question noire. Et elle estime que la négritude met tous les noirs dans le même sac. Or, il y a des singularités. Et son expérience en Guinée, par exemple, elle l'évoque dans son autobiographie, etc. Et elle dit, par exemple, qu'elle n'aime pas l'huile de palme. Et dans l'article que je lui ai consacré, pour revenir à la négritude, hein, parce que ça rejoint la négritude, je me suis inspirée d'un titre d'un auteur qui s'appelle Gaston Kellman. Mmh. Et le titre de son ouvrage, c'était « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Et dans un sous-chapitre de mon étude concernant Maryse Condé, j'avais écrit « Je suis noire et je n'aime pas l'huile de palme ». Cela signifie qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même cadre. Et donc, il y a des spécificités. Or, la négritude césarienne avait l'air de rassembler tous les Noirs sous une seule étiquette. Et ça, elle refusait cela.
C'est ça. Voilà. Donc, si on saisit bien, en fait, au niveau de son écriture, Maryse Condé, elle va pas renier le fait que la négritude ait eu un impact sur la création littéraire négro-africaine, mais va tracer sa propre route, se frayer son propre chemin au milieu de ses pères fondateurs, de ses grands noms de la littérature négro-africaine, caribéenne, martiniquaise de l'époque.
Oui. Disons qu'elle va même se réclamer davantage de Frantz Fanon.
De Frantz Fanon.
Voilà.
Qu'elle appelle d'ailleurs son deuxième père.
Voilà. Plutôt que Césaire. Mm-hmm. Voilà. Frantz Fanon. Et puis un peu plus tard, même Glissant. Voilà. Édouard Glissant, le père de l'antianité et de la poétique de la relation.
C'est ça. Alors profitons en même temps pour parler un peu de son rapport. Puisque tout à l'heure, de son rapport à l'Afrique. Parce que tout à l'heure, lorsque je la présentais, j'indiquais qu'en 81. Elle va divorcer d'avec son époux guinéen Condé, et donc elle va épouser le Britannique Richard Philcox. Mais malgré cela, elle a gardé jusqu'à sa mort le nom de son premier époux Condé. Est-ce qu'on doit y voir le signe d'un fort attachement à l'Afrique, professeur Assi? C'est vrai, comme l'a dit le professeur Larou tout à l'heure, elle n'aimait pas la sauce graine, le vin de palme.
Oui,
bon, c'est ça, elle n'aimait pas plutôt la graine. Je peux dire, oui.
C'est beaucoup plus, comme je dis, c'est beaucoup plus compliqué mm-hmm. que cela. Mm-hmm. D'abord, Condé. J'allais d'ailleurs
y arriver.
Hein. Le nom Condé qu'elle a gardé, je ne sais pas si c'est un attachement à l'Afrique. On pourrait l'interpréter ainsi. Hein. Mm-hmm. Mais n'oublions pas aussi que dans l'histoire, il y a eu un Condé, le grand Condé, qui était autour du roi Louis Soleil. Donc, quelque part, le roi Louis Soleil, c'est Louis XIV.
Mm-hmm. Donc, il y avait un Condé autour de lui aussi.
Oui, un mm-hmm. Condé. Mm-hmm. Donc, c'est un nom qui parle. Et ça peut être aussi une stratégie éditoriale.
Royal.
Voilà. Mais ce qui est sûr... elle dit dans une de ses autobiographies que elle était contente. Et c'est là où on voit la démarcation entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Parce que c'est vrai que vous prenez un ouvrage de Maryse Condé, c'est écrit Maryse Condé. Mais pourtant, à l'intérieur d'un ouvrage où c'est écrit Maryse, où on a comme auteur Maryse Condé, elle dit que quand elle s'est mariée à Phil Cox, elle était contente, heureuse, de se défaire de son nom initial, puisqu'elle s'appelle, son nom de jeune fille, c'est Maryse Apolline Boucolon.
C'est ça.
Boucolon,
c'est ça.
Voilà. Et donc, elle était très heureuse de se défaire de ce nom et de se défaire de Condé, du nom Condé. Elle le dit dans un texte. Et pourtant, sur la page de couverture de ce livre, figure Maryse Condé, figure le nom Condé. Donc Condé serait certainement plus en rapport avec une politique éditoriale.
D'accord. Voilà, merci déjà, professeur. Je vais juste souligner, comme vous l'avez dit, son nom donc à l'état civil. Hein.
Oui, allez-y. Amène à l'Afrique.
C'est ça. Alors donc juste indiquer, hein, voilà donc tout le nom Maryse Liliane Apolline Boucolon. Alors on va clore ce premier aspect donc de notre échange sur Maryse Condé pour ceux qui seraient donc qui nous auraient pris en marche sur Radio de la Paix en écoutant ensemble un élément sonore de Maryse Condé elle-même où elle fait allusion à sa découverte de l'Afrique et puis à être soi-même. Tout à l'heure vous l'indiquiez donc professeur Larroux, cette quête d'écriture, elle a toujours voulu s'identifier à elle-même au-delà des influences. On va donc écouter cet extrait sonore de Maryse Condé parlant de sa découverte de l'Afrique et être soi-même.
Les gens qui ne bougent pas, à mon avis, ne comprennent pas le monde autour d'eux. Maintenant, le monde est fait de rencontres, d'échanges, de partage. Si on est quelque part, toujours au même endroit, on passe sur une réalité importante. Donc, en fait, J'ai commencé par en Afrique parce que je voulais connaître mes origines. Après, le mot origine est devenu un mot pas très important pour moi. Donc, je me suis rendu compte que l'important, c'était être soi-même là où on était. Arriver à être soi-même, avoir sa voix, voix V8, V8E.
Voilà, être soi-même, avoir sa voix, c'était donc un des objectifs de Marie Scondé. Voyons donc ensemble, chères mesdames, chers professeurs, je rappelle donc professeur Assi Diané et Béatrice Laroung-Guessant, l'écriture de Marie Scondé. Cette écriture, son influence d'abord dans la littérature guadeloupéenne et antillaise de façon générale. Comment elle en arrive à imposer à soi son écriture, professeur Diané?
Asseoir son écriture, disons que, bon, elle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une écrivaine assez singulière, pratiquement originale. Et donc, par rapport aux différents mouvements qui a pu, mouvements littéraires, qu'on a pu rencontrer dans la littérature caraïbe francophone, elle ne va pas appartenir en fait à un mouvement en particulier. Elle n'appartiendra pas vraiment au mouvement de la négritude, ni à celui de la créolité, peut-être un petit peu quand même à celui de l'antillanité, même si son écriture est vraiment singulière. Et elle ne correspond pas non plus à ce que les auteurs caribéens ont l'habitude de typologiser, j'emploierais un espèce de néologisme pour évoquer les différents auteurs. Bon, à un moment donné, dans la littérature antillaise, il y a cette problématique entre l'emploi du créole, ou en tout cas d'une forme de créolisation de la langue française, et puis le français classique. Et bon, en général, Marie Scondé utilise plutôt un français classique à l'intérieur duquel elle insère parfois des tournures créoles, mais elle ne fait pas le même travail que, par exemple, les auteurs de la créolité comme Chamoiseau ou comme Confiant. Et c'est pour cela que, bon, comme elle le dit, je n'écris pas forcément en créole ni en français, j'écris en Marie Scondé. Bon, elle a son propre langage, elle considère que chaque écrivain a son propre langage. Mmh. Et cela vient peut-être aussi du fait qu'elle a été élevée dans une famille assez particulière où justement on l'empêchait de parler le créole quand elle était enfant. Donc elle n'a pas grandi avec cette langue-là comme langue maternelle, en quelque sorte, comme c'est le cas pour les écrivains, notamment ceux de la créolité. Et donc, c'est cette singularité de son expérience linguistique, de son expérience culturelle et familiale, qui fait aussi son rapport particulier, justement, à l'écriture.
Merci, professeur Assi. Professeur Béatrice Laroux, professeur Assi l'a dit tout à l'heure, il y a cette phrase qui sort de la bouche des lèvres de Marie Scondé elle-même. J'écris en Marie Scondé. Écrit en Marie Scondé.
Oui, je crois que...
Singularité, particularité.
Oui, singularité et même, je dirais même insolence.
Pourquoi insolence?
Insolence parce que par rapport aux académismes, on a coutume de nous enseigner la littérature en termes de mouvement, le naturalisme, le réalisme, le classicisme. Vous êtes d'accord avec moi? Et on enseigne ça aux élèves, comme si il fallait forcément enfermer un écrivain dans un genre, dans un mouvement particulier. Et quand elle dit, comme une sorte de rebuffade, je n'écris pas comme ceci, j'écris à Marie Scondé, c'est son individualité qu'elle impose. Et je dirais qu'elle a tout dit concernant Marie Scondé, concernant la singularité de Marie Scondé. Mais nous savons aussi que Marie Scondé est venue très tard à la littérature. Elle a publié son premier ouvrage, Herma Conant, en 1976, je crois, et donc elle vient à 42 ans à la littérature. 76, il y a eu déjà un tournant dans la littérature. En 68, il y a eu déjà Kourouma qui s'est démarqué de ses aînés en proposant l'écriture des Soleils des Indépendances, qui est déjà singulière. Ensuite, vous avez quelqu'un comme Yambo Ologem, le Malien Yambo Ologem, qui a proposé Devoir de violence avec une écriture singulière. Il a même eu le prix Goncourt, même si ce Goncourt lui a été après refusé. Cela dit, aujourd'hui, il est réhabilité à travers notre Goncourt. Et puis, il y a Malik Fall. Je veux dire que on ne peut plus écrire comme avant. Et puis, il y a tous ces jeunes, comme elle a dit, une autre génération d'écrivains dans les Antilles qui pensent autrement l'écriture. Donc, il était difficile pour Maryse Condé, qui arrive à 42 ans sur la scène littéraire, de trouver un positionnement, comment se positionner à partir de tout cela. Et donc, il fallait qu'elle casse, si vous voulez, les cadres classiques. Classique, j'entends pas classique, négritude. Et peut-être ce qui va venir, ça dit la créolité, puisque quand vous n'êtes pas là, la nature a horreur du vide. Hein. Elle était en Afrique, ceux qui sont sur place, eh ben, ils ont prôné la créolité. Et elle ne se reconnaissait pas là-dedans, parce que la créolité demandait la littérature, ou bien récusait la littérature hors sol. C'est-à-dire, si vous n'êtes, il faut être présent sur le sol. Or, elle n'était pas sur le sol.
Merci beaucoup.
Sur le sol, guadeloupéen, je veux
guadeloupéen,
dire. Oui. Ou antillais, enfin.
Oui, déjà qu'elle a beaucoup vécu dehors, et donc, une vingtaine d'années aux États-Unis, où elle a enseigné tout ça, d'ailleurs.
Elle s'est dit qu'on ne peut pas être écrivain lorsqu'on est en dehors de son sol. Et là, elle pose une question très essentielle.
Donc, on peut dire qu'elle a reçu quelque part, on ne va pas dire le tour de magie, mais la prouesse de pouvoir s'affirmer avec autant de défis à relever. Nous allons revenir dans l'avant-dernière partie de cette émission, de ce plateau, pour parler des différents combats de Maryse Condé. Mais je voudrais juste, pour revenir donc à cette fameuse phrase, j'écris en Maryse Condé, que nous écoutions encore un second élément sonore de Maryse Condé elle-même, où elle aborde son style d'écriture.
La langue dans laquelle j'écris n'est pas le français, n'est pas le créole, je le dis souvent. C'est une langue qui est la mienne. J'écris en Maryse Condé.
Voilà, bref extrait, mais qui résume assez bien tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle le dit bien, la langue dans laquelle j'écris, c'est pas X, c'est pas Y, mais c'est du Maryse Condé. Et là se dégage toute la singularité de cette écrivaine. Mais est-ce qu'aussi cette revendication d'écrire en Maryse Condé, ce qui lui donne tout son charme, c'est pas aussi cette, je dirais pas forcément prouesse, cette capacité qu'elle a eue d'écrire, d'engager, d'aborder le langage de l'universel, son écriture a traversé sa Guadeloupe, les îles, la Caraïbe. Elle a fait plusieurs années en dehors de son île, de 20 ans aux États-Unis, en France. Mais c'est une écriture qui touche tout le monde, sans exclusive, à mon humble avis.
Oui, de toute façon...
Je veux dire, Ali Maryse Condé, on se retrouve, tout le monde se retrouve dans son écriture.
Si on ne se retrouvait pas, elle n'aurait pas eu le prix Nobel de...
Alternative de littérature.
Oui, donc c'est une reconnaissance mondiale, enfin, puisque là, elle est vraiment connue. Hein. Et ce que je voudrais ajouter... Ce n'est pas que je veuille vous contredire, parce qu'il y a forcément une forme d'universalisme hein, dans ce qu'elle écrit. On se reconnaît là-dedans, elle est lisible, etc. Et c'est très agréable. Mais ce que je voudrais ajouter, quand elle parle d'écrire Maryse Condé, ça dit, moi je vois ça aussi comme un regard particulier qui est posé sur les choses. Et je reviens à... ce que je vous ai dit, à ce petit texte que j'ai écrit. Et j'étais très contente en venant dans ce studio de voir que vous aviez le livre « Conte à rire et à pleurer », je crois. C'est toi qui l'as enlevé.
Oui, voilà. Pour ça, c'est nous l'a prêté Bon, voilà. Pour l'émission d'ailleurs.
Voilà.
Merci à elle. Je rappelle que votre article, c'est Mes émerveilles dans l'écriture de Maryse Condé.
Oui, mais ça parle également de ça.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à partir de 1993, Maryse Condé a orienté sa plume vers l'écriture du moi. Donc, elle apparaît davantage dans ses écrits.
Okay.
Il y a plusieurs textes comme ça. Et elle va se définir à partir de la cuisine, à partir de la nourriture. Et c'est singulier. C'est singulier. En général, les gens écrivent, ils font une autobiographie, ils parlent d'eux, ils se donnent des ascendances nobles. Mais elle, elle ne va pas faire cela. C'est vrai que l'écriture du moi, à partir des années 80, on a donné une orientation particulière aux écritures du moi. On n'écrit plus comme Jean-Jacques Rousseau le faisait au XVIIIe siècle avec les confessions, c'est vrai. Et ma collègue tout à l'heure a parlé d'autofiction, c'est-à-dire que vous vous racontez, mais de façon fictionnelle. Elle va encore aller plus loin. Elle va se raconter à travers des aïeux, et pas n'importe quel aïeux. Parce qu'elle aurait pu se raconter à travers ses parents, ce qu'elle ne fait pas. Elle va sauter ses parents. Et elle va aller chercher du côté de sa grand-mère qui était analphabète et se réclamer d'elle. Et elle va construire un récit de vie à partir de cette grand-mère qui était cuisinière. Et elle va raconter à travers plusieurs livres. Comment elle se construit. Et ça part de son premier livre, Hermakono, jusqu'au moment où elle tient la plume dans Victoire des saveurs et des mots, puisque sa grand-mère s'appelait Victoire. Et moi, je trouve que cette manière particulière de poser son regard sur des thèmes de la littérature est aussi relève de ce qui participe de sa singularité.
Très bien. Singularité affirmée, donc, au-delà de l'écriture, par sa personne elle-même. Et ça, c'est remarquable aussi à ce niveau, comme vous le soulignez. Professeur Assi, un élément additif sur ce que vient de dire professeur Larroux, peut-être? Oui, allez-y, je vous en prie.
Par rapport à la cuisine, en effet, c'est vrai que c'est une particularité. Et il semble que non seulement cette cuisine apparaît dans les textes, mais dans sa vie même, voilà. Elle aimait énormément faire la cuisine, et c'est vrai que forcément la cuisine aussi, ça dit des choses, des personnes, des cultures, etc. Et donc c'est important aussi en effet pour la connaissance de Maryse Condé, qui adorait justement faire une cuisine qui justement ramène aussi à toute la culture noire, que ce soit la culture antillaise, africaine, américaine, etc.
D'accord. Merci à vous. Oui, additif rapidement, professeur Larroux.
Parce que
oui.
C'est très important. Ce que je voulais également ajouter...
Avant qu'on y passe à l'avant-dernière partie, allez-y.
Oui, c'est que cette cuisine, pour aller dans le sens des cadres qu'elle casse, on pourrait penser que c'est une féministe. Oh, les féministes, justement, tournent le dos à la cuisine. C'est un grand prof, mais un grand prof qui aime cuisiner. Et elle le rappelle. Et c'est très important pour nous, les femmes. Et elle dit, d'ailleurs, quelque part, que sa vie ne consiste pas seulement à enseigner, à être dans des colloques. Sa vie, c'est aussi présenter un plat à ses enfants. Et elle a eu, les nourrir, c'est très important. Nourrir, éduquer un enfant est aussi important qu'écrire un livre.
On rappelle d'ailleurs qu'elle a eu 4 enfants de son mariage avec le Guinéen Condé.
Voilà.
Elle a 4 enfants.
Voilà.
Bon, un décédé par la suite, malheureusement.
Voilà. Et c'est très important de le souligner pour les intellectuelles femmes.
D'accord. On ne va pas se cacher derrière donc ses bouquins ou encore son bagage intellectuel pour ne pas toucher aux casseroles à la cuisine. En tout cas, belle image aussi que va laisser donc Maryse Condé. Je voudrais juste rappeler à celles de ceux qui viendraient donc de se connecter sur Radio de la Paix que vous êtes à l'espace Plaisir de lire. Je suis en compagnie aujourd'hui de deux invités, professeur Assie Diané, elle est maître de conférence au département de lettres modernes à l'université Félix-Foy-Boigny-Cocody, spécialiste du roman africain et de la littérature francophone, et professeur Béatrice Larou-Nguessan, professeur titulaire de littérature et civilisation française. En leur compagnie, nous passons en revue la création littéraire de Maryse Condé, le personnage, l'écriture. Nous rappelons donc l'écrivaine guadeloupéenne, autrice de plusieurs titres, de plusieurs romans qui ont traversé plusieurs genres, le théâtre, le roman et autres, n'est-ce pas, décédée le 2 avril 2024 dernier. Alors, je reviens à vous, mesdames, professeurs, pour que nous voyons ensemble l'avant-dernier virage de ce temps d'antenne dans Plaisir de lire. Parlons maintenant de Maryse Condé, Maryse Condé ou plusieurs vies de combat. Nous avons intitulé cette partie ainsi parce que Maryse Condé, elle a tour à tour combattu l'esclavage, la colonisation, le racisme, mais aussi une figure ou encore un regard plus positif sur la femme. Alors, comment est-ce que tous ces combats traversent aussi sa production littéraire? Un mot là-dessus, professeur Assie?
Oui, en effet, hein, tous ces combats traversent sa production littéraire. Bon, si on envisage tous ces romans, par exemple, bon, on voit que il est question de tout cela, hein, que ce soit l'esclavage. Hein, bon, l'esclavage, il y a Moi, Tituba, sorcière, sorcière noire de Salem.
Sorti hein, en 86.
Voilà, hein, et qui est une narration d'une histoire vraie. Hein, et qui évoque justement l'esclavage dans toute sa violence et sa brutalité, et puis aussi l'existence donc de ces femmes qui ont subi justement les affres hein, de cette
colonisation,
de cette esclavage d'abord,
hein,
voilà. Au niveau de la colonisation, bon, là on a aussi tous les autres textes hein, qui évoquent la colonisation, qu'elle soit au niveau des pays africains, donc colonisation, post-colonisation aussi, avec les premières années des indépendances. Et puis, le racisme, hein, dont elle, qui forcément fait partie des deux précédents dont on a parlé. Le féminisme aussi, hein, bon, qui est un élément. Là, je dirais que ce n'est pas un féminisme, théorisé, mais il apparaît quand même dans toutes il apparaît dans tous les personnages, il me semble, de femmes qu'elle met en scène et qui sont des femmes. En général, des femmes fortes, des femmes libres, comme elles-mêmes d'ailleurs, hein, et qui ont des vies de femmes. Hein. D'ailleurs, dans l'un de ses derniers textes de type autobiographique encore, hein, La vie sans phare, par exemple, la question, c'est bien la question entre être mère, en tant que femme, être mère, ou exister pour soi-même, donc exister soit pour les enfants, soit pour soi-même. Donc cette question-là est une question aussi qui fait partie hein, du féminisme, me semble-t-il. Et donc on voit que tous ces combats-là sont illustrés en quelque sorte par la plupart de ces romans.
D'accord. On voudrait rappeler aussi pour l'histoire hein, que avant que vous n'interveniez seulement professeur Larroux, rappeler pour l'histoire que parlant donc de son combat en rapport avec l'esclavage, hein, la mémoire de l'esclavage, elle a présidé donc le comité pour la mémoire de l'esclavage créé en janvier 2004 pour l'application de la loi Taubira qui reconnaît donc en 2001 la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et Dieu seul sait combien de fois est-ce que la Martinique, le pays aussi, cette île chère à Césaire, n'est-ce pas, ont eu aussi à subir les affres, pour ne pas parler du continent africain lui-même, de l'esclavage. Et ça aussi, ça a été un élément marquant du parcours terrestre de Maryse Condé. Elle a lutté jusqu'au bout pour que cela soit reconnu, professeur Larroux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Elle a fait partie de ce comité-là de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça, c'est sûr. Et elle a parlé également de, comme elle a dit, de racisme. Vous avez parlé de ça. Mais c'est un racisme, le racisme dont elle a parlé, c'était aussi pour, enfin, c'était pour dénoncer. C'est trop dire. Mais à travers sa critique du racisme, on se rend compte qu'elle remet en question aussi la négritude. Et je donne un exemple.
Allez-y, je vous en prie.
Je donne un exemple. Mmh. Elle va en Inde. Elle va en Inde et elle se rend compte qu'elle est moquée. Elle est moquée pour sa couleur de peau et ses cheveux qui sont grainés. Or, elle se rend compte que les personnes qui se moquent d'elle sont beaucoup plus noires,
qu'elle-même.
Plus foncées qu'elle-même. Et ça lui permet, comme ça, de façon détournée, d'être critique vis-à-vis de la négritude. Parce que Césaire, par exemple, se disait qu'il était aussi un Indien de Calcutta, etc. Et donc, voilà comment un Indien plus noir qu'un autre noir se moque de ce noir parce qu'il est originaire d'Afrique. Donc la question de... C'est ce que j'aime chez Maryse Condé, c'est donner souvent de façon légère, mm-hmm. des sujets très profonds mm-hmm. sont donnés de façon légère, sans pour autant perdre de leur acuité, du regard qui lui est habituellement reconnu.
C'est ça. Voilà. Et pour corroborer vos dires, hein, voilà, il est même indiqué que en Afrique, elle va prendre conscience du racisme des Africains envers les Antillais et du repli de ces derniers lorsqu'ils vivent sur place. Et ce qui va même l'amener à décider de ne porter ni pain ni boubou. Mm-hmm. Et même elle va refuser d'apprendre les langues, certaines langues en tout cas. Bon, donc c'est une femme en tout cas assez engagée. Mm-hmm. Alors avant qu'on finisse avec la dernière partie de cette émission, je voudrais juste qu'on parle un peu succinctement de l'intertextualité. Est-ce qu'aussi on retrouve chez Maryse Condé, dans sa production littéraire, des traces d'autres écrivains, professeur Assi? On a des exemples avec, par exemple, oui. Césaire, Une saison au Congo, pardon. Césaire qui écrit... c'est bien une chose, hein.
Oui, une saison
voilà,
au Congo.
César qui écrit Une saison au Congo, après Dadé qui écrit Une tempête, mm-hmm. voilà, Une tempête au Congo. Donc, est-ce qu'on retrouve ces... Ça aussi, je Maryse Condé, l'intertextualité.
Oui, on le retrouve notamment dans la réécriture du texte d'Émilie Brontë, par exemple, Léo de Hurlevent. Mm-hmm. Maryse Condé a produit un roman qui s'intitule La migration des cœurs, et qui est une réécriture, justement, de ce texte-là d'Émilie Brontë, qui l'avait d'ailleurs, je crois, fascinée hein, quand elle était plus jeune. Et qu'elle a réécrit de manière magnifique d'ailleurs, hein, parce que c'est un texte qui est très très bien réécrit, avec des personnages qui ne sont plus dans la campagne anglaise, mais qui sont donc dans la campagne antillaise, enfin bon, voilà, hein, qu'elle remet dans un autre espace, mmh. avec d'autres types de personnages, des béquets, etc. Donc il y a ça, et puis je pense aussi, bon, au niveau intertextuel, à certains titres aussi de ses romans. Par exemple, Une saison à Riata, bon, ça fait penser tout de suite à Une saison en enfer de Rimbaud, et puis R.M. Makonnen aussi, En attendant le bonheur, bon, En attendant Godot, hein, de Beckett. Donc il y a des, mmh. voilà, mmh. y a des résonances comme ça intertextuelles, en effet.
D'accord. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez juste indiqué que l'une de ses œuvres majeures, qu'il a d'ailleurs révélée, c'est Ségou, hein, deux tomes, Les Murailles oui. de la Terre, tome 1, édition Lafont en 84, et puis le tome 2, toujours édition Lafont en 85. Ça, c'est vraiment une des œuvres majeures de Maryse Condé, qui va d'ailleurs la
c'est
révéler.
C'est celle qui oui. a eu le plus de...
D'éclat, on va dire, d'écho
oui,
à travers le monde.
Oui, d'écho et de fortune littéraire, en quelque sorte, hein, qui a été...
D'accord. En tout cas, mesdames, merci beaucoup. Je voudrais, en guise de conclusion, voilà, on ne pourra pas avoir le temps nécessaire, en tout cas, pour parler de l'œuvre immense, gigantesque de Maryse Condé. Mais en guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne donc de Maryse Condé, l'écrivaine, l'autrice, en termes d'héritage qu'elle laisse, influence aussi quelque part peut-être sur la littérature africaine. On va commencer par vous, professeur Assi, le mot de fin sous cet angle-là.
D'accord, oui, sous cet angle-là, bon, je dirais que ce que l'on peut retenir hein, de Maryse Condé et ce pourquoi il est intéressant de la lire ou de la relire, hein, c'est cette vision complexe justement des rapports entre cultures, entre peuples, entre les continents. Donc une conception aussi de l'identité qui est très particulière et qui tient compte de l'individu et pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, justement du collectif. Et puis aussi, ce qui est intéressant chez elle, c'est de réfléchir à cette non-assignation identitaire qu'elle évoque à chaque fois, parce qu'elle n'aime pas être assignée justement à quoi que ce soit. Et puis que c'est une femme vraiment libre, assez rebelle, impertinente aussi, mais toujours très intéressante. Et sa rébellion n'est pas faite avec agressivité ou violence, mais plutôt avec beaucoup de tendresse pour toute l'humanité, en fait.
Très bien. Merci à vous, professeur Assi. Professeur Larroux, votre mot de fin aussi.
Moi, je dirais que, avant toute chose aussi, puisque nous sommes à Abidjan, Maryse Condé, laisse à la postérité aussi un nom. Condé. Mmh. C'est un Africain. C'est un Guinéen. Et par ce nom, l'Afrique aussi s'invite dans le monde littéraire. De façon, dans la République, je dirais, dans la République des lettres. Dans la République mondiale des lettres. Et puis, il y a son écriture qui est particulière, dont on a parlé, et qui fait qu'on aime la lire. Et Chamoiseau l'a reconnu, la remercie de l'avoir aidé à connaître l'Afrique à travers ses goûts, dont vous avez parlé tout à l'heure, à travers ses goûts, au moment où lui-même, il cherchait à découvrir l'Afrique. Donc, elle participe quelque peu à faire connaître aussi l'Afrique. Il y a aussi ce que moi, j'appellerais une forme de liberté, une plume libre. Une plume libre. Et une plume libre, c'est une plume qui est légère, qui est capable de proposer des choses dures, des thèmes profonds, avec légèreté. Et en cela, elle est proche de quelqu'un comme un écrivain tchèque, reconnu, qui est académicien, qui s'appelle Kundera, Milan Kundera. Parce que ce n'est pas facile d'écrire de façon légère sur des sujets très durs. Et puis, il y a aussi ce que je retiendrai, hein, et qui fait que, à mon avis, elle est une figure majeure, hein, c'est le fait qu'elle renouvelle à sa façon certains vieux thèmes. Certains vieux thèmes, tout à l'heure vous avez parlé de casseroles. Alors, on ne va pas parler de casseroles. Mais il y a déjà des gens qui ont des écrivains, comme je pense même à Proust, à des écrivains qui ont revu la place de la nourriture dans la littérature. Et je pense notamment, et cette histoire de rapport à la nourriture, ça m'intéresse parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bria Savarin, qui est le père de la gastronomie, qui a écrit au 19e siècle un livre qui dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ». Et ça veut tout dire. Ça veut dire que notre identité, elle est faite même à partir de ce que nous mangeons. Et puis, autre chose, un autre un autre grand cuisinier français qui s'appelle Daguin, qui est mort récemment, a écrit un livre dont le titre est « Dis-moi ce que je... » Non, pardon, le titre de l'ouvrage c'est « Je pense, donc je cuis ». Et c'est une référence au discours de la méthode.
Je pense donc je suis.
Le cogito de Descartes.
Cogito ergo sum.
Voilà. Et donc, je terminerai avec ça et dire que elle éprouve vraiment, elle expérimente autrement cogito de Descartes vers la fin de sa vie.
Merci, professeur Assi Diané. Je rappelle donc maître de conférence au département de lettres modernes à l'université Félix-Foubaine-Cocody, spécialiste du roman africain et de la littérature francophone. Merci à vous aussi, professeur Béatrice Larou-Nguessan, professeur titulaire de littérature et civilisation française, en votre compagnie toutes les deux. Nous espérons, amis auditrices et auditeurs, vous avoir permis de découvrir quelque peu cette grande donc écrivaine, Maryse Condé. Nous rappelons donc guadeloupéenne d'origine morte le 2 avril 2024. Il était important pour Radio de la Paix d'ouvrir un espace afin de vous la faire découvrir ou redécouvrir pour les uns et les autres. Et nous souhaitons à tous et à tous une bonne écoute de nos programmes sur Radio de la Paix. À très bientôt dans Plaisir de lire.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.